Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 1er, nous lisons cette histoire. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre, hôte à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit « Allez, consultez Baal-Zébub, dieu des crons, pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu des crons ? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit « Pourquoi revenez-vous ? » Et ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui « Ainsi parle l'Éternel. » Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub de Décron ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur dit, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme vêtu de poils, ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit, « C'est Élie, le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit « Homme de Dieu, le roi dit descend. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Et il leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie, et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu descendu du ciel a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes, mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Et il lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des crons, comme s'il y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Et Akazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Joram régna à sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia, ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Nous avons là une histoire étonnante, voire détonnante, en raison de la sévérité des jugements qui y sont exercés, notamment sur les deux chefs de 50. Des fautes qui nous paraissent plus graves dans un passé récent, notamment chez Akab, le père d'Akazia, n'avaient pas été sanctionnées aussi sévèrement. Dans ce passage, nous observons quatre personnages, j'enlève Élie, et notamment quatre attitudes différentes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'Élie. Élie, dans ce passage, est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme Élie, n'avait ni beauté ni éclat, rien pour nous plaire. Mais c'est vers lui qu'il faut venir. Jésus a dit, « Venez à moi, mais ne commettez pas les erreurs qui ont été commises en vous approchant de lui. » Le premier personnage, c'est le roi Akazia. Les derniers versets du premier livre de Rois nous renseignent sur ce roi. Dans le dernier chapitre de ce premier livre, versets 52 à 54, il est écrit « Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année du roi de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, Dieu d'Israël, comme avait fait son père. » L'attitude du roi Akazia est mauvaise à plusieurs niveaux. D'abord, dès le départ, ce roi fait des mauvais choix. Le choix d'irriter Dieu. Le choix de mettre Dieu dehors de sa vie et de son règne. Le choix de marcher dans la voie de ses parents. C'est vrai qu'Akasia n'a pas eu les meilleurs parents. Son père était Akab, l'un des plus mauvais rois qu'Israël ait connu, et sa mère était la terrible Jézabel, qui était encore vivante au moment des faits. Akasia a donc grandi dans un contexte de péché, d'idolâtrie, d'occultisme, d'abus de pouvoir. Il n'a pas eu le meilleur des exemples. Mais Dieu ne le considère pas comme irresponsable pour autant. Il aurait dû apprendre du mauvais exemple de ses parents. Il aurait dû se souvenir des interventions divines qu'il y avait eues pendant leur règne. Quand on lui dit comment le prophète était habillé, il comprend tout de suite qui c'est. Dès le départ, ce roi Akasia a fait le choix de marcher loin de Dieu. Ce roi n'a pas régné longtemps, seulement 2 ans, mais suffisamment longtemps pour irriter Dieu. Il ne faut pas penser que Dieu patiente indéfiniment. Quand le temps a révélé ce que nous sommes et qu'il n'y a aucune possibilité ou plus exactement aucune volonté de revenir en arrière, Dieu peut mettre un terme à notre vie. Ce roi n'a pas voulu changer d'attitude. Akasia va connaître une première grande difficulté dans son règne, qui sera très court, de 2 ans, une première donc difficulté avec Moab, qui va se révolter et qui ne voudra plus payer le tribut. Et puis derrière, il y aura une seconde épreuve, quand Akasia va faire une chute de plusieurs mètres et tomber malade. Quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, c'est bien de s'arrêter, de s'interroger sur ses choix, de se poser des questions sur ses voies. Mais Akasia, plutôt que de s'arrêter et de réfléchir sur ses voies, met un grand coup d'accélérateur dans ses mauvaises voies. Il décide d'aller chercher la guérison du côté des guérisseurs et des sorciers, vers Baal-Zébub, une divinité païenne qu'il n'avait pas encore l'habitude de consulter. Baal-Zébub signifie « Dieu des mouches ». Plutôt que d'aller du côté de l'Éternel, il poursuit, et même il accentue, dans sa mauvaise voie, les difficultés qu'elle avait rencontrées. C'était l'opportunité pour lui de changer d'attitude. C'était la possibilité pour Dieu d'intervenir dans sa vie. Mais cet homme, par ignorance, mais surtout par résistance et endurcissement, il va refuser. J'ai connu un jeune homme, Jean, originaire du Togo. Il était footballeur professionnel. Il m'a raconté son témoignage. Un jour, il s'était blessé gravement au niveau de la jambe. Et donc, il va suivre toutes sortes de soins, de traitements. Mais rien n'y fera. La situation ne s'arrangeait pas. Ne voyant pas d'amélioration, il a commencé à aller du côté des guérisseurs et des sorciers. Mais rien ne s'arrangeait. La douleur était toujours là. Sa jambe ne guérissait pas. Et en plus, il allait de plus en plus mal. Il commençait à avoir des angoisses, de l'insomnie, des douleurs un petit peu partout. Alors qu'il s'apprêtait à persévérer encore dans cette voie, un ami l'a invité à se tourner vers Jésus-Christ, lui a donné un Nouveau Testament. Et Jean va lire ce Nouveau Testament et il va rencontrer Jésus, se tourner vers lui. Sa jambe ne guérira pas de suite, ce qui l'amènera à arrêter sa carrière de footballeur professionnel. Mais suite à sa rencontre avec Jésus-Christ, il découvrira la paix. Un chemin nouveau va s'ouvrir. C'est dans cette période que j'avais fait sa connaissance. Et il était heureux de ne pas avoir poursuivi dans sa mauvaise voie, mais de s'être tourné vers Jésus-Christ. Je reviens sur notre histoire. La suite montre qu'Akasia, lui, n'a pas changé d'attitude. Quand il apprend que c'est Élie qui a intercepté ses hommes, il envoie des hommes pour le ramener, de gré ou de force, mort ou vif. Il n'a pas fait chercher Élie pour écouter ce que Dieu avait à lui dire, mais pour lui fermer la bouche, pour lui régler son compte, comme on dit. Et quand Élie s'est présenté devant Akasia pour lui annoncer qu'il ne guérira pas, Akasia avait encore la possibilité de faire quelque chose. Il avait la possibilité de se repentir. S'il l'avait fait, peut-être que Dieu l'aurait guéri, peut-être pas. Mais certainement qu'il aurait pu recevoir le pardon de Dieu. Ce roi est mort sans repentance. C'est le pire qui puisse arriver à un homme. Akasia a eu tout faux. Mauvais choix, endurcissement, refus de repentance. N'ayez pas une telle attitude vis-à-vis de Jésus-Christ. Dieu veut vous amener à la repentance, à changer d'attitude. Il a donné sa vie pour lui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais laissez-vous atteindre par son amour, par sa grâce, laissez-vous toucher dans votre cœur. Le deuxième personnage, le premier chef de 50, il fut donc envoyé par Akasia pour amener Élie. Quand il arrive auprès d'Élie, il lui crie les paroles du roi Akasia. « Homme de Dieu, le roi dit « descends ». Et ce n'est pas Élie qui va descendre, mais c'est le feu du jugement qui va descendre sur cet homme et aussi sur les 50 hommes qui étaient avec lui. Qu'est-ce qui n'allait pas? Cet homme est venu avec de mauvaises intentions. Lui aussi, il a eu tout faux. Ce soldat s'est approché d'Élie et aussi finalement de Dieu avec légèreté, avec superficialité. Le roi a dit « tu descends, alors tu descends ». Cet homme pensait que le droit et l'autorité étaient de son côté et qu'Élie devait s'exécuter, se soumettre. Il s'est approché comme un pantin, comme un automate. Le roi dit « descends, alors tu descends ». Combien de personnes s'approchent de Dieu ou raisonnent sur Dieu en pensant que Dieu leur doit des comptes, que Dieu leur doit d'obéir. Ils pensent que Dieu doit faire ce qu'ils exigent. Ne soyez pas des pantins qui pensent qu'avec leurs propres opinions, qui pensent avoir leurs propres opinions, mais qui ne font répéter que c'est celle que le prince de ce monde leur a suggéré. Si Dieu existait, il ne devrait pas y avoir tous ces malheurs. Il faut faire comme ceci, il faut brûler un cierge, il faut faire cela. Non. La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. « Prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Un texte qui nous invite à réfléchir et à nous approcher de Dieu avec réflexion, en nous remettant en cause. La manière de parler de centenier rappelle l'attitude de ces personnes qui ont commencé à défier Jésus lorsqu'il fut crucifié sur la croix. « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres et il n'est même pas capable de se sauver lui-même. » C'est peut-être sur un ton comme celui-là que la parole lui a été adressée du style « Si t'es un homme de Dieu, si t'es si courageux, si t'es si fort que ça, prouve-le de sang. » D'où la réponse d'Élie. Si je suis un homme de Dieu, et le feu est descendu. » Tout l'évangile nous encourage à nous approcher de Dieu, mais pas avec légèreté, pas comme si on avait des droits ou une quelconque autorité. Le troisième personnage, le deuxième chef de 50. Akasia, ne voyant pas revenir son premier chef, en envoie un second, avec le même objectif et la même mauvaise intention, celle de ramener Élie de gré ou de force. On retrouve chez cet homme les mêmes erreurs que le premier. Il pense qu'il a des droits, il est aussi comme un pantin qui répète bêtement les paroles du roi sans réaliser à qui il s'adresse, il est complètement à côté. Mais il y a une petite différence dans son approche. Une petite différence qui démontre chez cet homme encore plus d'orgueil et d'arrogance que le premier. Déjà, il a probablement dû voir les corps calcinés et les traces de feu sur la première cinquantaine. Cela aurait dû le ramener à un peu plus d'humilité. Mais en plus, quand il est devant Élie, il lui crie « À toi de descendre ». C'est un petit peu différent que pour le premier. C'est comme s'il voulait dire « Je n'ai pas que ça à faire ». Si tu ne te dépêches pas, tu vas voir qui je suis et de quel bois je me chauffe. On ne s'approche pas de Dieu avec arrogance. C'est lui qui nous fait la grâce de venir jusqu'à nous. Ce n'est pas nous qui lui faisons une faveur en venant à lui. N'inversons pas les rôles. On s'approche de Dieu avec humilité. La Bible déclare, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'homme n'a aucune raison de se mettre en avant. Il n'a aucun moyen de pression sur Dieu. Une quatrième personne, le troisième chef de 50. Son approche est nettement différente. Les erreurs observées chez les deux premiers, qui l'ont précédé, ne s'observent pas chez lui. L'appellation « homme de Dieu » était méprisante et ironique dans la bouche des deux premiers, mais elle est pleine de respect chez ce dernier. Une fois arrivé sur les lieux, il a compris ce qui s'est passé pour les deux expéditions précédentes, et il se remet tout de suite en cause. Il rentre en lui-même, et dès qu'il voit Élie, il fléchit les genoux, il s'y plie, et demande grâce pour lui et ses hommes. Cet homme nous montre comment s'approcher du Dieu de l'Évangile. Le Dieu vivant est vrai. Un vrai changement intérieur s'observe. Il pensait avoir des droits. Il pensait avoir l'autorité de son côté. Il a vite réalisé qu'il ne pesait pas lourd et qu'il n'avait pas les moyens de résister. L'attitude manifestée est celle qui permet à tout homme d'obtenir grâce quand il s'approche de Dieu. Il nous rappelle ce centenier romain dont Jésus va admirer la foi et à qui il va lui accorder sa grâce et ce qu'il lui demandait. Il est intéressant de noter ici l'intervention de l'ange de l'Éternel, au verset 15, qui va intervenir pour que le feu ne les consume point. Cette intervention de l'ange de l'Éternel pointe vers celle que Jésus a accomplie pour nous, pour que le jugement de Dieu ne tombe pas sur les hommes. Sur la croix, Jésus est intervenu en notre faveur. Il a donné sa vie. Et le jugement qui devait tomber sur nous, il est tombé sur lui, afin que tout pécheur qui s'approche de lui, dans cette attitude de repentance et de foi, reçoive la grâce divine. Ça veut dire le pardon des péchés, le secours, la justification, la protection. Je termine en disant ceci. Quatre attitudes de cœur dans ce récit, mais trois sont mauvaises. Celle du roi, qui s'est endurci dans ses mauvais choix, qui a refusé finalement de s'approcher de Dieu et qui a refusé la repentance. Il y a celle du premier chef, qui s'est approché comme un automate, comme un pantin sans réflexion. Il y a celle du second chef, qui s'est approché avec arrogance. Le dernier chef nous montre la bonne voie. Il a su se remettre en cause, il a réalisé son indignité et il a imploré sa grâce, la grâce de Dieu. Et avec l'intervention de l'ange de l'Éternel, il a été épargné. Venez à Jésus-Christ, c'est lui qui a les paroles de la vie. Mais ne venez pas n'importe comment, avec humilité, en prenant conscience de vos péchés, avec foi dans ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Le sacrifice de Jésus vous permettra de recevoir sa grâce. Ce que Dieu veut, ce n'est pas envoyer le feu du jugement sur votre vie, mais c'est de manifester sa grâce. Un jour, un village de Samaritains a refusé d'accorder l'hospitalité à Jésus. Et les disciples vont demander alors à Jésus d'envoyer le feu du ciel, le feu du jugement. Ils devaient penser certainement à cette histoire pour faire une telle prière. Mais Jésus leur dira, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et il ajoutera, « Le Fils de l'homme et n'est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Jésus veut manifester sa grâce dans votre vie. Il veut pardonner vos péchés. Saisissez l'occasion qui vous est donnée maintenant. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui entendent ta parole, qui entendent l'Évangile. Et je prie pour qu'ils aient la bonne attitude, déjà qu'ils viennent à toi, et qu'ils ne commettent pas l'erreur du roi qui a refusé de se remettre en cause, qui s'est endurci dans sa mauvaise voie. Mais qu'on ne s'approche pas aussi de toi comme un pantin, une marionnette qui ne réfléchit pas. Qu'on ne s'approche pas encore moins avec arrogance. Et que ceux qui entendent ce message s'approchent de toi avec humilité, avec foi dans la grâce de Dieu, dans ce que Jésus a fait sur la croix. Celui qui s'approche avec un tel état de cœur, c'est sûr, il recevra la grâce, il recevra la vie nouvelle. Que ton nom soit béni. Amen.